France Musique. Musique et moi.
Étienne Klein.
Priscille Lafitte, France Musique.
La vie est une chose grave, il faut gravir, Pierre Reverdy.
Thank you.
Bonjour Étienne Klein.
Bonjour.
Merci d'être sur France Musique ce matin. Dans Musique et moi, vous êtes physicien, docteur en philosophie des sciences. Vous êtes aussi producteur de radio sur une antenne sœur, France Culture. Vous tenez une conversation scientifique tous les samedis. Et c'est un autre type de conversation qu'on va engager ce matin. Un Musique et moi au cours duquel on va prendre de l'altitude. Écoutez le monde, prendre le tempo du monde depuis tout là-haut. Car vous signez un livre d'entretien au sujet de votre passion pour la haute montagne et pour l'alpinisme, Psychisme ascensionnel, paru chez Artaud. Ah, vous avez demandé à ce qu'on écoute la troisième symphonie de Beethoven, l'Héroïka. Ici, on entendait le Concert des Nations dirigé par Jordi Savall. On entendait non pas le premier mouvement qui est plus altier, plus héroïque, mais le mouvement sombre, la marche funèbre. Nous voilà dans les profondeurs pour commencer.
Oui, alors le premier mouvement célèbre l'esprit des Lumières. Si j'ai bien compris, le deuxième c'est la marche funèbre et je ne peux pas l'écouter sans voir des images en même temps. C'est les images du film de Pierre Schoendorfer qui s'appelle L'honneur des capitaines. On voit des images d'archives. Une patrouille de soldats français marche sur les pans d'une colline. C'est pas de la haute montagne, c'est une colline. Et ils sont pris dans une embuscade et on voit l'un des soldats qui s'affale, touché par une balle. Et il y a une telle adéquation entre la détresse des visages et ce qu'exprime cette marche que je ne peux pas entendre cette musique sans voir les images, ni voir les images sans me souvenir de la musique.
La vie est une chose grave. Il faut gravir. Vous avez cité Pierre Reverdy au tout début de cette émission. Est-ce que le grave est forcément profond? Est-ce qu'il va forcément vers le bas?
Non, mais je pense que le fait de monter, d'escalader, de prendre de l'altitude, ça permet d'avoir ce que Gaston Bachelard, philosophe des sciences, qui est l'un de mes maîtres, appelait une contemplation monarchique du monde. Et je pense que s'élever, c'est en effet s'élever physiquement, c'est dans beaucoup de cas s'élever spirituellement. Ça ne marche pas à tous les coups, mais ça marche souvent.
Est-ce qu'on va forcément vers l'aigu quand on monte?
On va vers l'effilé. Alors je ne sais pas s'il y a un lien entre l'effilé et l'aigu, mais des gens s'amusent à classer nos tempéraments philosophiques à partir du type de paysage que nous aimons. Et il semblerait que les Kantiens, ceux qui aiment les concepts, et c'est le cas des physiciens en général, soient plutôt attirés par la haute montagne quand il y a plus de végétation, les arêtes sont justement très effilées. Ceux qui sont nietzschéens aiment plutôt les alpages, là où il y a des cloches qu'on entend, un peu de végétation. Et puis les autres, je sais pas trop où les mettre, mais moi je fais partie de ceux qui pensent que les spectacles qu'on peut voir de là-haut, ou les spectacles des sommets, nous porte à des idées qu'on ne pourrait pas avoir si la Terre était vraiment comme la Beauce.
Qu'est-ce qui vous a amené à grimper, à aller vers les hauteurs, Étienne Klein?
Le hasard. À l'âge de 20 ans, après avoir passé les concours des grandes écoles, j'étais un peu affaibli physiquement, j'étais malade. Et mes parents m'ont offert un stage. Et j'ai par hasard choisi un stage qui permettait de faire le tour du Mont Blanc en randonnée. Je suis arrivé à Chamonix, j'ai vu les 4000, le massif du Mont Blanc. Et j'ai été pris par ce psychisme ascensionnel, c'est-à-dire dans l'incapacité, en marchant dans les rues de la ville, de détourner mon regard des sommets.
C'est un coup de foudre pour la montagne?
Oui, c'est la découverte soudaine de ce que j'appellerais mon topos, c'est-à-dire le lieu où je me sens bien, quelles que soient les conditions, dans la vallée ou bien en altitude, j'ai l'impression d'être dans mon élément, alors que dans ma famille, il n'y a pas du tout de cette tradition de l'alpinisme, mais par un raisonnement stupide, comme j'aime la montagne, j'ai l'impression qu'elle m'aime, et donc je n'y suis pas en danger, je m'y sens parfaitement en sécurité, alors qu'on sait bien qu'il y a des risques objectifs en montagne qu'on ne peut pas annuler.
Donc c'est un coup de foudre amoureux, amical ou assassin, comme dit Brassens?
Non, amical, amoureux.
Grimper sur
les
montagnes.
D'abord amical, parce que j'ai commencé par la randonnée pendant 10 ans, l'alpinisme me paraissait être une activité pour des gens qui n'étaient pas vraiment des humains. Et il m'a fallu 10 ans pour traverser cette paroi de verre et me lancer dans l'alpinisme.
Car grimper sur les montagnes, c'est aussi s'exposer aux intempéries.
Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il elle me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris putois, allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit, ma voisine affolée vint cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié, mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contre un coucher d'or quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste, toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison? Erreur on ne peut plus funeste. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvré tout son courage, rentra dans ses foyers faire sécher son mari en donnant rendez-vous les jours d'intempéries. Rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux, j'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nuées, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son bonhomme de mari avait tant fait d'affaires, tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer, qu'il était devenu millionnaire et l'avait emmené vers des cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne pleut, où l'on ne sait rien du tonnerre. Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps auquel on a tenu tête ensemble, lui compter qu'un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble.
Georges Brassens, l'orage. Vous avez aussi, vous, Étienne Klein, béni le nom de Benjamin Franklin. Est-ce que vous avez fait les yeux d'eau au cumulus?
Et en montagne, on prend la météo en pleine figure, hein, et on peut être copieusement giflé par les photons quand il fait beau, ou bien par la pluie ou par la grêle. Et moi j'aime les deux, j'aime quand il fait mauvais. C'est là qu'on voit les tempéraments, qui sont les tempéraments montagnards. Et je suis assez d'accord avec Brassens, non pas que le bon temps me dégoûte, mais je pense qu'il y a des pays imbéciles où jamais il ne pleut, en effet. C'est un peu monotone, il y a une variété de la météorologie en montagne qui la rend séduisante.
Vous aussi, vous avez fait des rencontres lors d'un jour d'orage, par exemple?
J'ai pas le souvenir d'une rencontre par un jour d'orage. En tout cas, l'orage, c'est une circonstance où les liens d'amitié, on est toujours à plusieurs en montagne, au moins avec un compagnon de cordée, se renforcent.
Parce qu'il y a une dépendance les uns par rapport aux autres?
C'est ce qu'on appelle l'esprit de cordée. L'esprit, il n'y a pas de premier de cordée, en fait. Il y a un esprit de cordée.
Ah, ça n'existe pas.
Mais non, c'est-à-dire qu'une cordée, c'est quantique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer les deux éléments qui la constituent. On ne peut pas dire il y a celui-ci puis celui-là. Une cordée, c'est un ensemble insécable. Et donc, il y a une espèce d'interdépendance qui fait qu'on ne peut pas mettre en avant l'un plutôt que l'autre. Et cette forme de solidarité implicite, qui est transmise parfois par autre chose que les paroles, on n'a pas besoin de se parler, à quelque chose d'assez beau, et on aurait tout intérêt à transposer cette métaphore en bas, dans la vallée et dans les villes.
Parce que c'est vrai qu'on perçoit l'exercice de l'alpinisme plutôt comme un exercice solitaire, et en fait non.
Il y a des gens qui font des solos, moi j'en ai jamais fait, je serais incapable, j'aurais trop peur. Par contre, j'ai toujours grimpé avec un compagnon, un guide en général, et j'ai tellement confiance que justement je n'ai pas peur du tout, alors qu'en solo je serais effrayé à chaque pas. Et d'ailleurs, il n'y aurait pas de pas parce que je serais immobile.
Vous vous souvenez particulièrement de moments où les intempéries ont bouleversé un petit peu la donne?
Oui, il y a fort longtemps, on était à plusieurs à traverser le Liscam en Suisse, une longue arête à plus de 4000 mètres. Et à l'époque, on n'avait pas vraiment de données météo. On a été pris dans une tempête effroyable, soudaine. Et là, on a eu peur. Pour le coup, on a eu peur. Et on a fini par retrouver un refuge après des heures et des heures de marche dans le froid, avec le sentiment, en tout cas c'est celui que j'avais, que j'étais accompagné par mon ange gardien, qui m'interdisait de m'asseoir et de me laisser mourir là. Et en arrivant au refuge, épuisé, on a juré de ne plus jamais mettre les pieds dans un glacier, tellement on avait été traumatisé par l'expérience. On est donc parti l'année suivante en Algérie, dans le Hoggar. Et là, on a eu encore plus peur, puisque c'était le moment où le fils avait gagné les élections. Et puis il y avait des tas de troubles en Algérie, et on est vite retourné dans nos glaciers chéris.
Est-ce que vous scrutez la nuit une fois que vous êtes en haut d'un sommet? Est-ce que vous méditez sur l'espace et sur le vide de l'espace?
Alors quand on est la nuit, en général, on n'est pas au sommet, on grimpe. On grimpe, et quand on est au sommet, c'est en général plus tard, le jour est apparu. Mais ce qui est fascinant la nuit, en effet, c'est de contempler mieux qu'on peut le faire partout ailleurs, notamment en ville, la Voie lactée, qui est d'une intensité absolument incroyable et qui éblouit. Quand on est à 4000 mètres et que le ciel est dégagé, le ciel est vraiment lumineux. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à un paradoxe qui a tourmenté les physiciens pendant 3 siècles. C'est comment se fait-il qu'il fasse nuit la nuit? Parce qu'en fait, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, on tombe sur une étoile. Donc le ciel est pavé d'étoiles, et quand on fait un petit calcul, on s'aperçoit que la luminosité du ciel est telle qu'on ne devrait pas avoir besoin du soleil pour qu'il fasse jour le jour. Il devrait faire jour aussi la nuit. Et ça a été un long sujet de réflexion et de tourment pour les physiciens. Et finalement, on a compris que s'il fait nuit la nuit, c'est parce que l'univers a un âge fini, 13,7 milliards d'années. La vitesse de la lumière est elle aussi finie, 300 000 km par seconde, et l'univers observable est en expansion. Et il faut ces 3 ingrédients pour expliquer le ciel nocturne.
Est-ce qu'on peut écouter ensemble la sonate au clair de lune de Beethoven?
C'est l'occasion. Thank you.
Étienne Klein, à quoi est rattachée cette sonate de Beethoven ?
Bah, tout le monde la connaît, cette sonate. Je suis un peu désolé de vous la proposer.
Vous ne soyez pas désolé, mais très heureux de l'entendre.
Elle provoque chez moi une émotion particulière parce que je la connais très bien, parce que mon père la joue au piano. Et aujourd'hui, il a 91 ans, presque 91 ans. Et il continue à la jouer alors qu'il n'a plus tout à fait sa tête. Il n'est plus tout à fait présent à lui-même pour des raisons liées à un déclin cognitif qu'on appelle la maladie de Alzheimer, qu'il a un degré assez avancé, mais il peut jouer parfaitement avec des doigts un peu engourdis cette sonate, et évidemment ça m'émeut. C'est comme si dans le fait de vieillir, il y a des choses qui ne vieillissaient pas. Elles sont tellement engrammées dans la structure du corps ou de l'esprit que les mains obéissent sans que ce soit véritablement conscient. L'Adagio Sostenuto, premier mouvement de la sonate numéro 14 pour piano en U dièse mineur opus 27 numéro 2 de Ludwig van Beethoven sous les doigts de Daniel Barenboim. Est-ce que vous avez un souvenir de Daniel Barenboim en... Oui, je l'ai vu qu'une fois en concert il y a à peu près un an. Il jouait du piano à la Cité de la Musique. Et évidemment, c'était magnifique.
Dans quel répertoire ?
Eh bien, du classique. Non, c'était Mozart. Il a joué des sonates de Mozart. Et c'était somptueux, évidemment.
On va maintenant écouter Daniel Barenboim, mais en tant que chef d'orchestre, dans le Requiem de Mozart, qu'il avait dirigé en 1985 à la tête de l'Orchestre de Paris. C'est une musique qui est liée à la mort ou à la vie pour vous ?
Bah après la marche funèbre, vous allez penser que je suis mu par des pensées morbides ou des passions tristes, mais c'est tout le contraire, en fait. Quand j'avais 30-40 ans, je faisais beaucoup de courses à pied, des crosses, etc. Je m'entraînais et à chaque fois, je rentrais ivre parce que j'avais produit des endorphines. Et donc, j'étais dans une sorte d'excès de vitalité. Et pendant le bain que je prenais après l'entraînement, je passais le Requiem de Mozart qui venait relativiser ma vitalité. Et donc, c'était pas du tout parce que j'avais une passion triste, mais je pense que le sentiment d'exister vraiment provient d'une pensée qui elle-même fait rebond sur l'idée de la mort. Et donc, les deux s'associent fort bien. Et ça me permettait de trouver une sorte de d'équilibre entre une sorte de d'ivresse existentielle et l'idée qu'elle ne durera pas éternellement.
C'est pas lié à un tempo, alors? C'est pas le tempo de la course?
Non, c'est pas du tout. C'est plutôt l'après-course. Il faut se calmer.
Thank you.
le record d'arrêt du Requiem de Mozart avec les voix de Kathleen Battle, Anne Murray, David Rendall et Mathis Salminen. L'Orchestre de Paris était sous la direction de Daniel Barenboim.
France Musique.
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Étienne Klein est l'invité de Musique et moi ce matin. Alors gravissons quelques pentes ensemble si vous le voulez bien. Partons à l'ascension d'un sommet. Est-ce que vous écoutez la nature d'une façon particulière quand vous êtes dans cet environnement-là ?
Disons que quand on est dans les phases délicates, techniques, on est vraiment très concentré, on est résumé à un petit volume de l'espace-temps, on se souvient pas du passé, on n'anticipe pas le futur, on est vraiment présent au présent, d'une façon qui nous rend quasiment sourds. Et puis dans les moments un peu plus faciles, par exemple quand on redescend sur un sentier, etc., alors là, l'esprit a tendance à divaguer, à explorer d'autres régions que celles qu'il fréquente d'habitude. Et on entend toutes sortes de choses avec beaucoup plus d'attention. Notamment, il y a le phénomène d'écho en montagne, hein, le son qui rebondit sur des parois et qui fait que on sent des résonances, des vibrations qu'on ne perçoit pas en plaine ou dans la vallée.
Vous qui avez beaucoup réfléchi sur le temps et sur le vide, est-ce que la résonance est une perception du vide ?
C'est plutôt une perception de vibration qui se propage dans l'air, en l'occurrence. C'est ça l'écho, le phénomène de l'écho, c'est une onde acoustique qui rebondit sur une paroi et revient vers vous, après donc, un certain décalage temporel.
Voilà, c'est donc plutôt une perception du temps alors.
C'est une sorte de revitalisation du passé, puisqu'on réentend ce qui a été déjà émis. C'est le passé qui revient dans le présent.
Est-ce que vous vous intéressez un tout petit peu au phénomène d'acoustique et de résonance dans les lieux, dans les églises, dans les salles de concert ?
Non, là, je vais verser dans l'ultra-crépidarianisme, c'est-à-dire que je vais parler au-delà de mes compétences, si vous me forcez à dire des choses.
Alors, quelqu'un qui a été inspiré par les montagnes et par la musique de cet environnement-là, c'est Franz Liszt. Qui pendant son séjour suisse, pendant son séjour helvète, dans les années 80, avait fui Paris pour vivre sa passion amoureuse, était devenu professeur au conservatoire de Genève, et on trouve dans le premier recueil des années de pèlerinage, le dernier morceau de ce recueil, qui s'appelle « Les cloches de Genève », et ce morceau est précédé d'une citation qui dit « Je ne vis pas en moi-même, mais je deviens une part de ce qui m'entoure ».
Lord Byron.
Précisément. Les années de pèlerinage de Franz Liszt. Première année suisse, ce sont les cloches de Genève, interprétées par Nicolas Angolich. Étienne Klein, Genève, vous connaissez bien cette ville, puisque vous avez travaillé au CERN.
Pendant
au
3 ans, j'ai vécu à Genève, entre les Alpes et le Jura.
Région encaissée, effectivement.
On entend un lointain carillon là dans ce morceau, et puis ensuite ça se réveille un peu. C'est plutôt des alpages, hein, c'est la moyenne montagne. Mais c'est là qu'est le CERN, en effet, où... que Liszt n'a pas connu, et pour cause, mais on fait des recherches qui nous renseignent sur l'origine de l'univers, en tout cas l'univers primordial, quand l'énergie des particules était très très grande, et on reproduit, grâce aux accélérateurs du CERN, les conditions physiques de cette époque. Donc on entend finalement la musique de l'univers primordial.
Dans ces années où vous avez habité dans cette région genevoise, vous étiez surtout attiré par les Alpes plutôt que par le Jura, si j'ai bien compris.
J'ai fait le col de la Faucille à vélo, mais sinon j'étais en effet à Chamonix le week-end.
C'est là où vous avez aussi été pu pratiquer l'alpinisme à cette période-là ?
J'ai pu le pratiquer plus facilement puisque Chamonix est à 80 km de Genève, mais j'avais commencé quelques années auparavant.
Alors, si nous sommes partis en Suisse à l'instant, dans Musique et moi, c'est aussi pour être sur les traces d'Albert Einstein.
Absolument, Einstein, grand violoniste. Et ben, en fait, sa mère lui avait offert un violon lorsqu'il était tout petit et il avait des professeurs qui changeaient souvent parce qu'il n'appréciait pas du tout les cours. Il était rétif aux méthodes un peu autoritaires. Il trouvait que l'enseignement était trop mécanique. Et puis, à l'âge de 14 ans, il a pu entendre certaines sonates de Beethoven et de Bach. Et il a été pris d'une émotion intense et son rapport à la musique a complètement changé. Et l'a accompagné tout au long de sa vie. Son fils raconte que quand il hésitait sur un problème, quand il séchait, entre guillemets, il jouait du violon et la musique était une sorte d'éther qui portait ses pensées et lui permettait de résoudre les problèmes qu'il habitait. Et quand il parle des sonates de Mozart, je le cite, elle dit... Elles sont si pures et si belles qu'elles sont le reflet de la beauté intérieure de l'univers. Et donc pour lui, qui a eu des problèmes de langage quand il était enfant, il pensait que les notes tracent dans un espace qui n'est pas l'espace ordinaire, des courbes qui sont plus précises que les mots. Et ça l'inspirait sans doute dans sa façon de concevoir, disons, l'unité cosmique de l'univers et la beauté que cette unité porte.
Est-ce qu'on sait si Albert Einstein était un féru d'alpinisme, au moins un marcheur ?
Non, il a fait de la randonnée quand il était à Aarau en Suisse, après avoir quitté l'Allemagne. Parce que la discipline dans son lycée de Munich était trop militaire, il est parti en Italie rejoindre ses parents du côté de Milan. Et là, il a fait beaucoup de randonnées. Et l'année suivante, il a été scolarisé dans une petite ville de Suisse qui s'appelle Aarau, où l'enseignement était plus libéral. Il est tombé amoureux de la fille du directeur, qui s'appelait Marie Winteler, et ensemble, ils faisaient des randonnées. Et il a toujours aimé marcher, en tout cas dans la période où il habitait l'Europe et non pas les États-Unis. Et il raconte même une marche qu'il a faite avec Marie Curie autour du lac de Côme. Ils étaient tellement pris par leur conversation qu'ils ne faisaient pas attention aux crevasses. Il escaladait des rochers sans s'en rendre compte. Et à un moment, il a agrippé Marie Curie en disant « Mais Marie !» Je veux absolument comprendre ce qu'on ressent quand on est dans un ascenseur qui tombe en chute libre. Donc oui, on peut avoir une pensée en montagne qui est complètement décorrélée du paysage dans lequel on se trouve.
Et Albert Einstein avait entendu le violoniste Yehudi Menuhin alors qu'il était tout jeune. Je crois qu'il y a une anecdote qui raconte que quand Yehudi Menuhin avait 13 ans, Albert Einstein l'aurait entendu en concert et aurait dit « Ce soir, vous m'avez prouvé l'existence de Dieu ».
Thank you.
La 35e sonate de Mozart, Köchel 379, Stella d'Adagio, par Yehudi Menuhin au violon et sa sœur Hepzibah Menuhin au piano. Étienne Klein est l'invité de Musique et moi ce matin. Étienne Klein, Sacha Guitry disait, lorsqu'on vient d'entendre un morceau de Mozart, le silence qui lui succède est encore de lui. Je sais que vous n'aimez pas trop les citations, parce que celle-là est exacte.
Mozart, il n'y a pas de doute, on sent que c'est de la musique. Hein. Et ça continue après, en effet. Moi, j'aime bien inverser la phrase. J'ai assisté à pas mal de concerts des Rolling Stones et j'ai l'impression que le silence qui précède leur entrée sur scène, c'est déjà des Rolling Stones. Mais pour venir à Mozart, vous savez, Einstein, et là c'est une citation exacte, je peux vous donner les références, disait ceci, « Je pense souvent en musique, je vis mes rêveries en musique, je vois ma vie en termes de musique, le violon est l'une des plus grandes joies de ma vie. » Einstein déclarait ça en 1929 à un journaliste allemand.
Quelle est donc la nature du silence en musique? Est-ce que c'est pas là précisément qu'on mesure à la fois le temps et le vide, ce moment entre deux notes?
Le tempo, il est donné par les notes, mais aussi par les écarts entre les notes. Moi, j'aime bien cette définition de la musique qui a été proposée par Francis Wolff, un philosophe qui a écrit récemment « Pourquoi la musique ?». Il dit « La musique, c'est une suite de sons qui internalise l'idée de sa cause ». Parce qu'en fait, la cause de toutes les notes, c'est l'instrument qui les joue, un violon, un piano. Mais quand on entend de la musique, on n'a pas besoin de voir l'instrument, on a l'impression que c'est chaque note qui vient d'apparaître qui est la cause de la note suivante. Et donc la causalité est interne au flux musical, alors que dans la vraie vie physique, les notes sont produites par des instruments. Et donc il y a cette espèce de tour de passe-passe qui fait que on a l'impression que chaque note est la conséquence de la précédente, alors qu'elle est jouée indépendamment par une main ou un souffle.
Je crois que vous vous êtes intéressé à la théorie des cordes, Étienne Klein. Est-ce que ça a un rapport avec le violon ?
Absolument.
Vous expliquer ça ?
L'idée de la théorie des cordes, c'est une tentative théorique pour unifier les deux théories fondatrices de la physique contemporaine, la gravitation décrite par la relativité générale d'Einstein et la physique quantique qui décrit les autres interactions. Et une des pistes qui est élaborée depuis quelques décennies, la théorie des supercordes, consiste à dire que les particules ne sont pas des corpuscules, c'est pas des points matériels, ce sont des cordes vibrantes dans un espace-temps dont le nombre de dimensions peut être plus grand que 4. Et donc, finalement, il y aura une sorte d'unité ontologique de la matière. Toutes les particules que nous connaissons, qui sont différentes, l'électron, les quarks et d'autres encore, seraient des modes de vibration d'une seule et même corde dont les niveaux d'excitation donneraient les différentes particules que nous connaissons. Un peu comme une corde de violon peut vibrer de différentes façons selon des harmoniques qui donnent les différentes notes.
Donc notre univers serait un grand violon qui vibre ?
Absolument. D'ailleurs, la théorie des supercordes a une anagramme qui dit exactement ça. L'anagramme de la théorie des supercordes, c'est de la poussière d'orchestre.
Alors c'est le moment d'écouter le concerto de Max Bruch, je pense que ça s'y prête bien. Je vous propose d'écouter la version d'Isaac Stern, enregistrée aux côtés de l'orchestre de Philadelphie, dirigée par Eugène Ormandy. Le concerto pour violon en sol mineur de Max Bruch, c'était Isaac Stern, au violon accompagné de l'orchestre de Philadelphie dirigé par Eugène Ormandy.
France Musique, Priscille Lafitte, Musique et moi.
Le physicien Étienne Klein est l'invité de Musique et moi ce matin pour son livre « Psychisme ascensionnel » paru aux éditions Artaud. On venait d'entendre une version Isaac Stern dont on fête cette année le centenaire. Il est né en 1920, donc l'année où est mort Max Bruch. Max Bruch qui est une découverte récente pour vous.
Bah oui, c'est grâce au fait qu'il est mort il y a 100 ans que j'ai appris son existence. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment une musique qui a été composée il y a plus de 100 ans était entendue à l'époque et si notre façon à nous de l'entendre
comment
est la même ou pas.
Interprétation.
Oui, c'est-à-dire qu'on peut pas l'écouter sans faire que l'histoire est passée par là et a changé sans doute nos façons d'entendre, les critères d'écoute, etc. Et c'est une question qui se pose pour tous les arts, pour la peinture par exemple. Est-ce qu'on, quand on regarde un tableau de Cézanne aujourd'hui, est-ce qu'on le voit comme le voyaient ses contemporains ou est-ce que notre œil a été déformé par le temps qui a passé?
On a écouté un certain nombre de morceaux de violon jusqu'à maintenant dans son Musique et moi. Vous êtes attiré par cet instrument? Vous jouez d'un instrument?
Non,
vous,
je joue de rien. Mon frère aîné jouait du piano. J'ai promis à mes enfants, plutôt j'ai annoncé sans rien promettre à mes enfants que j'allais me mettre à la guitare électrique.
Donc un instrument à cordes.
Et puis les vacances et d'autres occupations ont fait que c'est parti remise.
Vous avez dit un peu plus tôt, Étienne Klein, que vous aviez un tempérament de haute montagne et non pas de moyenne montagne. Mais on va quand même partir en Auvergne, si vous voulez bien.
Pourquoi pas?
Tout de suite. Je vous propose qu'on écoute ensemble une chanson auvergnate, une mélodie recueillie par Joseph Canteloube au début du XXe siècle, en 1930 plus précisément. Et la petite histoire raconte que le compositeur regardait le coucher de soleil sur le massif du Cantal quand il a entendu le chant d'une bergère, un chant auquel un berger a répondu quelques kilomètres plus loin. Ils chantaient tous deux ce bailero.
Le berger répond à la bergère.
On écoute, on en parle juste après.
Thank you.
Baglero, chant d'Auvergne de Joseph Canteloube, chanté par Véronique Jans, accompagnée de l'Orchestre National de Lille, dirigé par Jean-Claude Casadesus. Est-ce que vous chantez en montagne, vous, Étienne Klein ?
Non, je chante très mal, enfin, je chante très peu, j'ai qu'une corde vocale qui fonctionne vraiment à cause d'un accident de santé qui m'est arrivé il y a une vingtaine d'années, donc je parle avec une seule corde vocale.
Comment est-ce
donc je peux chanter du Brassens, c'est tout.
Est-ce que vous ne seriez pas supposé chuchoter dans votre cas ?
Normalement, je devrais parler comme Mauriac. Mais grâce à une rééducation très intense et très bien guidée par un phoniatre qui s'appelle Monsieur Lehuche, je peux parler comme je vous parle.
Donc vous avez un rapport très particulier à la voix et au résonateur. Vous avez...
Absolument, et je pense qu'il vaut mieux avoir une extinction de voix qu'être en voie d'extinction.
Je crois que vous avez...
Mais à propos de ce qu'on vient d'entendre qui est magnifique, Canteloube, il a écrit cette phrase que je trouve étonnante, il dit « Il faut aux chants de la terre leur décor, leur cadre, leur accompagnement de nature, de plein air ». C'est une phrase bizarre. Moi, je pense que la puissance d'une musique, c'est justement d'être capable de s'émanciper du contexte de son apparition pour atteindre à une forme d'universalité. Et la raccrocher à son origine, ça me semble suspect.
Ça vous gêne ?
Oui.
C'est peut-être le...
D'ailleurs, il l'a écrit en 1941 dans l'Action française. Donc,
c'est le contexte.
Suspect. Oui, le contexte explique peut-être cela, mais pas au point qu'on ait envie d'y adhérer. Au contraire.
Je crois que une des voix qui vous fascine... c'est celle de Keith Richards.
C'est plutôt sa dégaine que sa voix, qui n'est pas extraordinaire. Il chante faux, il chante mal, mais il chante avec sincérité.
C'est ce que sa voix dit de lui, peut-être, qui vous intéresse.
Oui, il est rayonnant sur scène. C'est quand même quelqu'un qui, manifestement, a compris deux ou trois bricoles à la bonne façon de pactiser avec la condition humaine.
C'est un art de vivre.
Oui, comme savent le pratiquer ceux qui ont ressuscité. Qui est la seule façon de vraiment bien vivre.
Vous disiez tout à l'heure que ce qui vous avait frappé, c'était le silence qui précédait un concert des Rolling Stones. Vous êtes allez-vous en concert les écouter ?
Mais à chaque fois que je peux, et j'y suis allé une dizaine de fois, et là malheureusement ils ont retardé leur tournée, mais ils ont sorti des vieilles chansons qu'ils ont un peu modernisées, et elles sont magnifiques. Scarlett.
Walking through the woods the other day, and the world was a carpet laid before me. The birds were bursting and the air smelled sweet and strange. It seemed about 100 years ago. Mary and I, we would sit up on a gate, just gazing at some dragon in the sky, Lord. What tendencies we had, no secrets hid away. Well, seem about 100 years ago. Now if you see me drinking bad red wine, don't worry about this man that you loved. Don't you think it's sometimes wise not to grow up? Walking through the woods the other day, can't you see those furrows in my forehead? What tendencies we had, no secrets hid away. It seemed about 100 years ago. Now my friends is wearing worried smiles, living out a dream of what they was. Don't you think it's sometimes wise not to grow up? You're gonna kiss this man goodbye, Lord, I warn ya. You're gonna kiss me goodbye, Lord, I warn ya. You're gonna kiss me goodbye. I warn ya. Please excuse me while I hide away. Call me Lazy Bones. Ain't got the time to waste away. Lazy Bones. Ain't got the time to waste away. Don't you think it's just about time to hide away? Yeah, yeah.
Là, c'était la voix de Mick Jagger qu'on a entendu dans ce Scarlett. Étienne Klein, je crois que vous êtes plutôt Stones que Beatles, si j'ai bien compris.
Oui, d'ailleurs, j'ai trouvé une citation incroyable dans le dernier livre d'Hervé Le Tellier qui s'appelle L'Anomalie. Il dit ceci, vieillir, c'est avoir adoré les Stones et se mettre à leur préférer les Beatles. Je suis pas du tout d'accord, ou alors je vieillis pas comme lui.
Parce qu'il est question aussi de vieillesse dans cette chanson de Scarlett.
Oui, c'est des paroles magnifiques hein, sur la nostalgie de l'enfance. Il compare ce qu'il vit à ce qu'il a imaginé lorsqu'il se promenait en forêt, lorsqu'il était enfant. Et c'est un texte très bien écrit, on dirait du Byron, presque.
Alors, comme toute dernière musique dans cette émission, Étienne Klein, vous avez choisi le tombeau de Couperin, plus précisément le Menuet. Vous avez une affection particulière pour Maurice Ravel ?
Non, c'est ma compagne qui me l'a indiqué et j'adore ce morceau. D'autant plus que Maurice Ravel a une anagramme magnifique qui est « Amical rêveur ». Oh, oui. Celui-là, très bien. Et il a écrit cette chanson pour rendre hommage à tous ceux qui sont morts au front. Lui, il avait cherché à s'engager, à combattre, mais avec ses 48 kilos, il n'a pas pu passer la barre de l'engagement militaire. Et il a donc écrit ce morceau pour rendre hommage à tous les soldats morts au combat.
Et je vous propose que sur cette musique, sur ce Menuet du tombeau de Couperin, vous avez amené une lecture. Je vous propose que vous puissiez nous la lire. C'est la première page, je crois, d'une...
Du roman dont je viens de parler, celui d'Hervé Le Tellier, qui s'appelle L'Anomalie.
Tuer quelqu'un, ça compte pour rien.
Alors ça, c'est le début du livre, du roman. C'est le portrait d'un homme qui s'appelle Blake, qui est un tueur à gages.
Et peut-être on peut aussi faire un lien avec le tombeau de Couperin et...
Ça parle de la mort et ça parle du vide. Donc le lien avec l'alpinisme est... Lui aussi tout tracé.
Alors on écoute Ravel et on vous écoute avec.
Tuer quelqu'un, ça compte pour rien. Faut observer, surveiller, réfléchir, beaucoup. Et au moment où, creuser le vide. Voilà, creuser le vide. Se débrouiller pour que l'univers rétrécisse. Rétrécisse jusqu'à se condenser dans le canon du fusil ou la pointe du couteau. C'est tout. Ne pas se poser de questions. Ne pas se laisser guider par la colère. Choisir le protocole. Agir avec méthode. Blake sait faire ça. Et depuis tellement longtemps qu'il ne sait plus quand il a commencé à savoir. Après, le reste vient tout seul. Blake fait sa vie de la mort des autres. S'il vous plaît, pas de leçon de morale. Si on veut discuter éthique, il est prêt à répondre statistique. Parce que, et Blake s'excuse, lorsqu'un ministre de la Santé coupe dans le budget, qu'il supprime ici un scanner, là un médecin, là encore un service de réanimation, il se doute bien qu'il raccourcit de pas mal l'existence de milliers d'inconnus. Responsable, pas coupable, et reconnu. Blake, c'est le contraire. Et de toute façon, il n'a pas à se justifier, il s'en fout.
Le menuet du tombeau de Couperin de Ravel, l'orchestre Les Siècles, sous la direction de François-Xavier Roth. Vous avez lu un texte qui parle de l'univers qui se rétrécit, Étienne Klein, et ça avait une résonance particulière sur cette musique de Maurice Ravel qui a été composée à la sortie de la Première Guerre mondiale. Ça avait un
prenant sens. Oui, quand on superpose cette phrase, l'univers rétrécit, avec cette époque dont vous parlez, en fait, juste après la guerre, en 1919, un physicien britannique qui s'appelle Eddington, lui, anglais, antimilitariste, pacifiste, veut montrer qu'un physicien allemand a mieux compris la gravitation qu'un physicien anglais, en l'occurrence Newton. Le physicien allemand, c'est Einstein, avec sa théorie de la relativité générale, et il prédit que la lumière doit être déviée par la matière, notamment par les étoiles, et donc il va le vérifier à l'occasion d'une éclipse totale qui se déroule dans l'hémisphère sud en mai 1919. Et là, ça valide en quelque sorte une des prédictions de cette nouvelle théorie de la gravitation élaborée par Einstein, et quelques années plus tard, on va découvrir que l'univers est en expansion. Donc il se rétrécit d'après ce que je viens de lire, mais en fait, tout de suite, très peu de temps après la Première Guerre mondiale, l'univers observable apparaît en expansion, et des prix Nobel vont récompenser une suite de découvertes, notamment le prix Nobel de physique 2020 qu'on vient de connaître, qui récompense des travaux sur la cosmologie et la formation des trous noirs.
On a le temps finalement d'écouter une toute dernière musique, Étienne Klein. Et je crois que dans vos musiques de chevet, il y a la rêverie de Debussy. Vous me disiez que c'est une façon de vous détendre. Est-ce que c'est une façon de faire le vide? Est-ce que ça a un sens pour vous de faire le vide?
Faire le vide, vous voyez, c'est imaginer qu'il n'y a rien. Mais dès qu'on pense le rien, qu'on le veuille ou non, notre entendement en fait quelque chose qui ne peut pas être. Autrement dit, penser le rien n'est jamais penser à rien. Et donc une rêverie, c'est pas l'absence de toute pensée, c'est une pensée qui est bien là, mais qui se laisse aller, qui n'est pas contrainte par des arguments qui viendraient la critiquer. Elle flotte un peu comme des nuages qui passent dans le ciel.
On va écouter cette rêverie de Debussy, non pas sur des cordes frappées au piano, mais sur des cordes pensées. Xavier Demestre à l'harpe. Merci Étienne Klein pour ce temps de rêverie de Debussy sous les doigts de harpiste Xavier Demestre. Merci d'être venu partager vos émois musicaux dans ce Musique et moi.
D'ailleurs, j'ai une petite anagramme qui va renforcer l'intérêt et le poids du titre de votre émission. Vous connaissez la question « Qu'est-ce que le moi ?» qui tourmente les philosophes et les psychanalystes depuis fort longtemps. Eh bien, l'anagramme de « Qu'est-ce que le moi ?» c'est « quelque et moi ». Voilà, c'est pour vous.
C'est joli, merci beaucoup. Merci à Marie Le Peintre à la technique ce matin, Jean-Claude Mulet à la réalisation, attaché de production, Marie Ferdinand. Passez un beau dimanche en rêverie, rempli de musique. À la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.